L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Seigneur, on veut te remercier pour ta parole parce que ta parole, elle est puissante et c'est au travers de ta parole que nos situations peuvent changer. Père, aujourd'hui, nous allons parler de finances, nous allons parler d'argent, nous allons parler de ton royaume, nous allons parler de choses très naturelles, mais aussi des choses que ta parole nous donne, des clés que ta parole nous donne par rapport aux finances. Et je prie vraiment, Père, la sagesse et l'intelligence divine sur chacun d'entre nous. Je prie pour chaque personne qui va écouter ce message et qui l'écoute en ce moment, afin que cette personne soit éclairée par ta parole et puisse voir des transformations extraordinaires au travers de l'enseignement de ta parole. Père, tu nous montres que ta parole est comme un rayon de miel qui vient nous donner du goût, qui vient nous amener dans des choses délicieuses. Et c'est ce que tu veux pour ton peuple. Tu veux que ton peuple entre dans un pays où coule le lait et le miel. Tu veux, Père, que nous puissions être pourvus dans tous nos besoins. Et c'est ma prière pour chaque personne ici aujourd'hui. Merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, un Dieu merveilleux. Et merci parce que lorsque tu trouves des cœurs obéissants à ta parole, tu nous transformes et tu nous amènes de gloire en gloire. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux t'accueillir ce soir. Merci parce que tu m'aides à partager ta parole comme tu le désires, comme tu le veux, de la façon dont tu le veux. Je m'ouvre à toi, Saint-Esprit, je m'ouvre à ta parole, je m'ouvre à ta présence, je m'ouvre à cette onction et je déclare ta présence dans ce lieu. Je proclame la gloire de Dieu dans l'enseignement. Je déclare que l'intelligence des cœurs s'ouvre, l'intelligence aussi dans l'âme s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma gloire à Dieu. On va commencer par un verset et aujourd'hui, je vais partager avec vous des fondations sur les finances et j'espère que vous avez votre Bible parce qu'on va aller voir plusieurs passages ensemble qui sont importants. Donc aujourd'hui, on va voir des fondations. Je vais vous donner quelques titres comme ça pour savoir à quoi vous attendre. On va voir premièrement l'argent, sujet de conflit ou de bienfait. Comment vient le changement dans les finances? La volonté de Dieu concernant les finances. L'argent n'est pas sale, au contraire, il appartient à Dieu. La limitation des biens matériels. La crainte de Dieu, ingrédient pour prospérer. Notre vision de l'argent, la valeur de l'argent à nos yeux. Ça, c'est ce qu'on devrait voir, je pense, aujourd'hui. La fois prochaine, on va voir les répulsifs de la prospérité. Donc, qu'est-ce qui nous empêche à prospérer selon Dieu? Et là, on va voir pas mal de choses, les inquiétudes, l'amour de l'argent, l'orgueil, l'égoïsme, les convoitises, les dettes, la malhonnêteté, la mentalité de pauvreté et la mauvaise confession. On verra la fois suivante certainement les amis de la prospérité. Là, on va parler de la bonne confession, on va parler de la semence, on parlera des offrandes, on parlera de la dîme, on parlera de l'obéissance aussi, de connaître et de respecter les saisons, parce qu'il y a des saisons dans les finances, dans nos vies. Comment éduquer son âme, la bonne gestion financière aussi, comment économiser le travail et l'honneur. Et certainement, on verra encore d'autres choses. Mais on peut commencer aujourd'hui, c'est ça, avec des fondations importantes pour aller plus loin. Et on peut aller dans un passage, c'est dans Agée, au chapitre 2, au verset 8. Je commence avec un livre que vous n'avez peut-être pas l'habitude de lire. Dans Agée, au chapitre 2, au verset 8. Qui nous montre quelque chose d'important par rapport à l'or et l'argent. Où il nous est dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc déjà, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? C'est que l'or et l'argent n'appartiennent ni à Satan, ni aux démons, ni aux hommes, ni à la terre, mais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc déjà, si nous comprenons ça, ça va changer parfois notre façon de prier et ça va changer notre façon de percevoir l'argent et l'or. Et la Bible dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et bien sûr, ici, bon, ça parle de la maison de Dieu, du royaume de Dieu, mais il y a vraiment un espoir par rapport à nos situations financières. Je ne sais pas dans quelle situation financière vous êtes actuellement, mais ce qui est clair et évident, c'est que la parole détient les clés pour transformer notre situation financière. Et que si nous mettons la parole de Dieu en pratique, il est évident que nous allons prospérer. Et là, dans cette série, on parle de la prospérité financière. Il y a aussi la prospérité émotionnelle, prospérité physique, prospérité spirituelle, etc. Là, on va s'attacher à la prospérité financière surtout. Mais il y a vraiment un espoir. La Bible dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » On sait que Dieu nous appelle de gloire en gloire. Et donc, c'est clair, et on va le voir ensemble, il y a ces clés, ces vérités, ces doctrines qui sont là dans la parole de Dieu, qui peuvent à la fois nous éviter des erreurs. Et on sait que les erreurs du côté financier coûtent cher. Alors qu'on n'a plus d'argent, ça nous coûte même ce qu'on n'a pas. Mais d'un autre côté aussi, les vérités de la parole de Dieu, donc c'est ça, nous éloigne de tous ces problèmes et aussi nous font prospérer. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des cracks, on pourrait dire, financiers ou des coûts financiers importants, mais parfois, on met longtemps à s'en sortir et à pouvoir reconstruire une vie financière qui est bonne, qui est paisible, qui est tranquille. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit dans la paix. Donc, la Bible nous dit que l'argent et l'or appartient à Dieu. Donc, l'argent, c'est soit dans nos vies et dans nos couples, peut-être, si on est en couple ou dans nos familles, si on est en famille. Soit c'est un sujet de conflit, soit c'est un bienfait. Donc, l'argent dans nos vies actuellement, soit pour moi, c'est un sujet de conflit dans ma vie personnelle. Même si j'habite tout seul, ça peut être vraiment un conflit en moi, dans ma propre vie. Ou soit au contraire, bah, c'est un sujet de bienfait, c'est un sujet de bénédiction, c'est un sujet de joie parce que je me vois prospérer, je me vois pouvoir aider des gens, je me vois pouvoir faire toutes sortes de choses qui apportent une certaine joie dans ma vie. Donc ça, c'est les deux types de rapports qu'on a avec l'argent. Soit on est en conflit avec l'argent, soit au contraire, on se sert de l'argent pour bénir les gens et aussi pour être béni. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment vient le changement. Si aujourd'hui on a des défis, on a des montagnes par rapport à nos finances, il faut comprendre d'abord comment vient le changement. Alors il y a des gens qui diront bah, il faut simplement prier et Dieu fera, bah, Dieu amènera l'argent et Dieu fera tout le reste. Et on sait que c'est faux puisque vous pouvez donner $1 million à quelqu'un et voir cette personne tout dilapider en quelques mois ou en très peu d'années parce que cette personne n'a pas été transformée dans ses pensées. Et parfois, il y a des gens qui ont vécu tellement dans la pauvreté aussi, dans des problèmes financiers, que dès que l'argent arrive, eh bien, ils vont le dépenser. Parce qu'ils sont tellement dans le manque que dès que cette chose-là arrive, ils veulent tout de suite la dépenser. Donc, comment on peut voir le changement et comment le changement vient ? La première des choses, c'est de reconnaître ses erreurs. Si on ne reconnaît pas nos erreurs au niveau des finances, ce sera impossible pour nous de changer. Donc, on a besoin, pendant que je vais enseigner la parole de Dieu, et pendant qu'on est dans ce sujet-là, et qu'à la maison, peut-être, on va y penser et tout, c'est de reconnaître quelles sont nos erreurs. Quand la parole de Dieu vient, la Bible dit que c'est comme un miroir, et on se voit tel qu'on est réellement. Donc, au travers de différents passages qu'on va lire, bah, on va se voir réellement par rapport à nos finances, et par rapport à comment on voit l'argent, comment on gère l'argent, et soit on va... Bah, voir la réalité en face, voir les erreurs en face, et ça va nous aider à changer. Ou soit, on va dire, non, finalement, j'ai raison, je ne changerai pas ça. Et bon, bah, dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'être enseigné parce qu'on restera pareil, les mêmes personnes. Donc, première des choses, c'est reconnaître ses erreurs. Deuxième chose, c'est apprendre de ses erreurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire même d'une manière générale. On peut apprendre de nos erreurs. Il y a des gens, ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Ils font des erreurs financières, ils font des mauvais investissements, ils s'en sortent durement et difficilement et avec toutes sortes de problèmes que ça crée. Et 6 mois après, 1 an après, paf, ils retombent exactement dans la même erreur. Et en fait, leur vie n'est qu'un cycle de petites bénédictions et d'énormes malheurs et malédictions qui arrivent dans leur vie. Constamment, constamment, constamment. Et pourquoi ? Parce que leur mentalité n'a pas été changée. Donc, reconnaître ses erreurs, apprendre de ses erreurs, et parce qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Et la troisième chose, c'est se décider à changer. Se décider à changer. C'est ce que Jacques dira, si tu écoutes la parole de Dieu, mais que tu ne changes pas, eh bien, à quoi ça sert ? Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Et c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu que ça fait, c'est là que ça fait toute la différence. Aujourd'hui, Dieu nous donne sa parole. Et ce qui est merveilleux avec sa parole, c'est que Dieu ne dit jamais stop à l'obéissance à la parole et aux bénédictions qu'il veut nous donner. Si on met sa parole en pratique, obligatoirement, il y a un résultat. Et face à cette parole, on est tous les mêmes. On est tous dans la même réalité et on a tous la possibilité de mettre cette parole en pratique dans nos vies. Je me suis réveillé ce matin avec un... J'étais en train de rêver, mais quand je suis sorti de ce rêve, j'avais encore la parole dans ma bouche. Et j'étais en train de dire à quelqu'un, et certainement c'est quelqu'un ici ce soir ou quelqu'un qui écoute, je lui disais, en fait, tu dois d'abord changer l'intérieur, ensuite l'extérieur va changer. Je disais tout simplement ça à la personne. Et c'est clair que beaucoup de gens... Effectivement, ils prient, ils s'attendent à l'homme, ils s'attendent à avoir un meilleur travail et tout ça. Mais pour changer notre extérieur, il faut d'abord changer ce qu'on a à l'intérieur. Parce que, effectivement, ce que nous voyons à l'extérieur dans notre vie, c'est le reflet de nos têtes. C'est pour ça que vous pouvez aller chez des gens parfois et vous voyez que leur maison est dans un désordre total. Leur papier, c'est dans un désordre total. Au niveau de l'administration, c'est un désordre total. Parce que dans leur tête, c'est le désordre. Vous voyez des gens, par exemple, qui sont sales ou qui ne s'occupent pas très bien d'eux, etc., parce qu'ils ont une mauvaise façon de se voir. Et ce qui est évident, c'est que ce que nous voyons dans nos maisons et dans nos vies, c'est le résultat de ce que nous sommes. Et c'est le résultat de ce que nous croyons. Et ça, c'est difficile parfois à accepter pour certaines personnes. Mais d'une manière générale, ce que nous voyons à l'extérieur, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. D'une manière générale. Après, on sait qu'il peut avoir des coups, il peut avoir des attaques, il peut avoir des choses. Mais d'une manière générale, ce qui se passe dans notre vie, c'est le résultat de ce qui est à l'intérieur. Donc, il va d'abord falloir changer nos pensées par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux finances, pour que l'extérieur puisse changer. Et je vous assure que si on change nos façons de penser et nos mentalités sur l'argent, sur les finances, sur ce que Dieu dit à propos des finances, obligatoirement, il va se passer des choses extérieurement. Et c'est ça qui est merveilleux dans la parole, c'est que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, dans Marc, au chapitre 7 et au verset 21, Marc 7, 21, Jésus dit... Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Donc Jésus dit simplement, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ? C'est que les prostitutions, la personne qui se prostitue ou la personne que je vois là avec mes yeux voler, ou que je vois tuer quelqu'un, ou l'adultère que je vois ou dont on me parle, ça ne s'est pas passé tout seul, ça ne s'est pas passé d'abord dans le naturel, ça ne s'est pas passé d'abord d'une façon physique. Si quelqu'un venait ici et me volait la bouteille d'eau qu'on m'a généreusement offerte, je le verrais avec mes yeux, et cette personne ferait une action, un geste, mais d'abord ça s'est passé où ce vol ? Ça s'est passé dans sa tête. Et il y a un certain nombre de pensées que cette personne a acceptées, a crues, et qui l'ont amené à prendre des décisions et à amener le vol dans sa vie. Donc, il y a beaucoup de choses dans nos vies. On serait surpris de savoir où elles sont nées. L'endroit où nous habitons, le travail que nous faisons, notre prospérité financière, comment vivent nos enfants tellement de choses que on serait étonné de savoir c'est quoi la source et d'où vient la source. Et on réaliserait pour beaucoup de ces choses que la source vient de là, de notre tête et aussi de notre foi en la parole de Dieu. Donc Jésus dit simplement ces choses, en fait, ce que vous voyez à l'extérieur là, ça vient d'où ? Ça vient du dedans. Ça vient du cœur humain, ça vient à l'intérieur de l'homme. Et dans Luc au chapitre 6, au verset 45, Luc 6, 45, Jésus va parler aussi d'un passage, d'une vérité semblable. Il dit « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais tire le mal de son mauvais trésor. » On reviendra sur ce passage pour d'autres choses. « Mais l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Si j'ai la bonne façon de penser, si je me tiens d'une bonne façon par rapport à Dieu et si je vois l'argent d'une bonne façon, qu'est-ce qui devrait se passer normalement ? Ça devrait faire sortir de bons trésors. Il devrait avoir quelque chose de bon et de positif au bout d'un moment qui devrait sortir de moi. Il y a trois choses que, en tout cas deux choses importantes que je voudrais dire aussi pour commencer. C'est que au départ, on voit dans la parole de Dieu que lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse 1:26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et dans Genèse 1:28, Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Donc, il est anormal dans nos vies d'être dominé par la terre ou d'être dominé par des choses physiques. Je ne devrais pas être dominé par des choses physiques. Et en fait, on va réaliser que ce qui est sur la terre, ça appartient bien sûr, on l'a vu, à Dieu. Et nous avons cet héritage de pouvoir profiter des bienfaits de Dieu et de la bonté de Dieu. La Bible dit ici que Dieu les a bénis. Et c'est comme ça qu'il faut se voir dans la vie. Il faut se voir béni. Et il faut proclamer la bénédiction sur nos vies et dans nos vies. Il dit « Remplissez la terre et soumettez-la. » Et vivre pauvre, ça n'a jamais fait plaisir à personne, normalement, quelqu'un de normal. Vivre dans la domination, dans une mauvaise soumission, ce n'est pas quelque chose de bon, ce n'est pas une bénédiction. Par contre, vivre en dominant la terre et en dominant selon la parole de Dieu, ça, c'est une bénédiction. Donc, une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous avons été créés pour dominer. Et que si aujourd'hui, on est esclave, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a créés au départ et pour l'éternité, pour faire une chose, c'est pour dominer. D'ailleurs, même lorsqu'il reviendra dans le millénium, la Bible dit qu'on dominera avec lui. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Et une deuxième chose importante avant d'aller plus loin, c'est que le diable a une volonté, et cette volonté pour l'Église et pour les croyants, c'est la pauvreté. Et dans le plan satanique pour l'Église, c'est un plan de pauvreté. Et on sait que par rapport à l'argent, ça a créé toutes sortes de questions dans l'Église, au fur et à mesure du temps et des années. Et dans beaucoup d'églises, ça a amené des divisions par rapport à la façon dont on voyait l'argent, par rapport à la façon dont on gérait l'argent. Mais un des plus gros mensonges que le diable ait pu donner à l'Église, c'est cette image et cette mentalité de pauvreté. En disant finalement, pauvreté égale humilité, richesse et prospérité égale péché. Et on va voir ensemble que c'est totalement faux. Et cette pensée, parce que ça a été une doctrine vraiment dans l'Église, avec un grand E, ça a amené le chaos dans les églises, dans les foyers, dans les familles, dans les maisons. Et ça a amené finalement les païens qui, eux, vivent d'une manière générale selon leur propre convoitise, donc constamment en train de convoiter, en train de vouloir s'enrichir constamment. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que si on prenait un certain pourcentage d'un élément, les païens ont pris toute la richesse possible et les chrétiens se partagent un petit pourcentage de la richesse qui est sur la terre. Et ça, c'est pas normal. Et quand on voit aujourd'hui les gens qui prospèrent le plus, c'est triste à dire, mais la majorité d'entre eux, ce sont des gens qui sont ennemis de Dieu et qui utilisent l'argent qui est dans ce monde et on a vu qui appartient à Dieu pour contribuer au péché, pour publiciser le péché et pour aider le diable finalement à détruire les vies, à détruire des familles, etc. au travers de l'alcool, de la prostitution, de tout ce qui est la débauche et tout ça qui détruit les vies, qui détruit des familles, qui détruit des femmes et qui détruit des hommes. Et en fait, souvent, on n'a pas cette compréhension de ce que la volonté du diable. On va parler de la volonté de Dieu, mais on ne réalise pas quelle est la volonté du diable. Et la volonté du diable, on sait, Jésus a dit, voilà, le voleur, il vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Donc, il vient pour voler l'Église. Jésus l'a très clairement défini. Voler comment ? Spirituellement, la Bible dit que tout est à nous. La Bible dit qu'on a été béni de toute bénédiction, mais c'est clair qu'il veut voler les gens spirituellement, les chrétiens. Mais aussi, il veut voler les gens matériellement. Et si on n'est pas éduqué dans les finances, c'est sûr qu'on va créer nous-mêmes des problèmes sans que le diable ait quoi que ce soit là-dedans. Mais il est évident aussi que le diable a amené cette doctrine de la pauvreté dans l'Église et que ça a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et ce que l'Église est aujourd'hui avec un grand E dans le monde, mais c'est le résultat des enseignements qui ont été auparavant. Et gloire à Dieu parce que l'enseignement progresse, la révélation de la parole de Dieu progresse, la parole ne change pas, mais notre compréhension de la parole, elle progresse d'année en année et de siècle en siècle. La Bible le montre d'ailleurs, que la connaissance de la parole de Dieu augmentera et la connaissance de la gloire de Dieu augmentera au fur et à mesure qu'on s'approche des temps de la fin. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est une Église triomphante, c'est une Église glorieuse, c'est une Église prospère et c'est une Église qui domine. Et si l'Église domine, prospère, si cette Église fait toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a dans cette Église des personnes qui dominent, des personnes qui prospèrent, des personnes qui ne sont pas écrasées par des fardeaux financiers, qui leur empêchent de vivre convenablement, qui leur empêchent de faire avancer le royaume de Dieu, parce qu'un pauvre, en général, ne peut pas vraiment aider un pauvre. Ce sont ceux qui ont de l'argent qui peuvent aider les pauvres, normalement. J'ai déjà vu des pauvres aider les pauvres, mais ils les aident avec le peu qu'ils ont en leur donnant parfois quelques cigarettes ou quelques pièces de monnaie qu'ils ont eux-mêmes demandées à d'autres personnes. Donc les pauvres ne peuvent pas vraiment aider les pauvres. Donc quelle est la volonté de Dieu concernant les finances ? On peut aller dans Ésaïe au chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Au verset 19. La Bible dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ah ça, ce verset, il m'a marqué il y a quelques années. C'était peut-être il y a 8 ans environ. Quand j'allais dans un centre commercial, en France, c'est vraiment des gros, on appelle ça des supermarchés, des gros centres d'épicerie. C'est vraiment très, très gros. Vous avez les rayons de fromage, c'est à peu près deux fois ça. Et c'est plein d'étalages. Et j'étais là-dedans et je pensais à ce verset qui disait que si on se décide pour l'obéissance, on mangera les meilleures productions du pays. Et moi, j'ai écrit une pensée un jour là-dessus, c'est dirigé par les promotions. Et il vaut mieux être dirigé par le Saint-Esprit que dirigé par les promotions. Et moi, pendant très longtemps, j'ai été dirigé par les promotions en voulant chercher toujours le moins cher, le moins cher, le moins cher. Et on parlera aussi de par rapport aux dettes et par rapport à économiser. Et on va voir que c'est bien, c'est sûr. Si je peux avoir la même chose pour moins cher, c'est bien. Par contre, si j'ai une mentalité de pauvreté qui m'amène à toujours rechercher le moins, le moins, le moins, ça c'est autre chose, ça c'est pas bien. Mais il y a une volonté de Dieu dans la parole. dans l'Ancien Testament, qui nous dit que si on se décide pour l'obéissance, qu'est-ce qu'on va manger? Les meilleures productions du pays. Et j'étais là dans ce magasin à chaque fois que j'y allais. Et là, je voyais, vous avez les produits les moins chers là qui sont en bas. Ici, ça m'a fait rire, comment ça s'appelle? Les no-name. Ça a même pas de nom tellement... tellement c'est pas bon. Après, vous avez au-dessus ceux qui sont un peu mieux. Et là, on vous met à peu près à votre niveau, on vous met les choses qui sont chères, les choses qui sont moyennes. Et après, il y a d'autres rayons où là, c'est vraiment les gens qui sont bien habillés qui vont là. Et là, c'est bio. Là c'est bio. C'est-à-dire que tu peux avoir une pomme, okay, elle est bio. Et c'est la même que l'autre, mais elle vaut 10 fois plus cher. Et je regardais toutes ces choses-là et je pensais, mais Seigneur, tu veux que je mange les meilleures productions du pays. Et je me suis dit, Seigneur, je vais manger un jour les meilleures productions du pays. Et on verra qu'il y a dans nos vides une croissance financière. Devenir prospère, ça ne vient pas forcément du jour au lendemain. La prospérité, on verra aussi que ce n'est pas avoir plein d'argent. La prospérité, c'est ce qui te reste, entre autres, pour toi-même et pour aider les gens. Donc ça, c'est un verset à méditer. À méditer, et c'est quelque chose sur lequel vraiment vous pouvez vous appuyer. Mais on parlera aussi de l'obéissance. Ça, c'est un point, un ami de la prospérité. Puisqu'il est dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, c'est alors en fait que vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc c'est clair que l'obéissance à la parole de Dieu d'une manière générale et spécifique nous amène à prospérer. Je peux par exemple, Dieu a pu me parler ou mettre dans mon cœur d'aller déménager, je ne sais pas, dans tel endroit ou de prendre tel métier, je n'aimais pas ça du tout, ou d'aller dans telle compagnie et je ne veux pas le faire. Et à cause de ça, je me retrouve dans des problèmes financiers. Parce qu'il y avait un terrain de bénédiction pour moi. Donc c'est important d'obéir à Dieu, bien sûr, et ça on en reparlera. Un passage très intéressant, bien sûr, c'est dans Deutéronome 28. On ne peut pas vraiment passer à côté quand on parle de prospérité et de la volonté de Dieu pour nous. Dans Deutéronome au chapitre 28 et au verset 1, la Bible dit encore, si tu obéis bien. Donc c'est clair que dans la parole de Dieu, il y a un lien évident entre l'obéissance et la bénédiction financière. Si tu obéis bien, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité. On a vu au départ la domination, Dieu rappelle sa promesse. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Ça, j'aime beaucoup ça. Littéralement, en fait, c'est comme une flèche que quelqu'un jette sur toi et ça t'atteint. Tu peux courir, ou comme quelqu'un qui lance un arc, une flèche avec un arc. Tu peux courir, mais si c'est un bon viseur, il va t'avoir. Les chasseurs de chevreuils, ils savent ça. C'est ça, donc ça va t'atteindre, c'est-à-dire ça va te poursuivre. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Quel que soit le lieu où tu te trouves, en ville ou à la campagne, tu seras béni. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Qui a des troupeaux ici? Une personne? Deux personnes? Mais en général, on n'a pas de troupeaux en tout cas. Il y a peu de gens qui ont des troupeaux maintenant. Donc, est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Oui, bien sûr, ça nous parle d'autre chose. La reproduction de tes bovins. T'as des bovins? Et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Alors moi, je n'ai pas de corbeille à la maison. Par contre, j'ai un compte bancaire. Et bien sûr, ça s'applique à ça. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est là où on mettait la provision. Ou alors vos placards. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Il y a des gens qui disent, ah non, mais tu sais, dans la vie chrétienne, il est obligatoire de passer par des gros déserts financiers parce que c'est ce que Dieu veut. Non, ce n'est pas ce que dit la parole. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi, donc ils vont venir contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est une belle image, ça. En gros, ils déguerpissent en courant. Comme si on leur avait jeté une dynamite. Ça part par tous les côtés dans la maison. par les fenêtres, par la porte, par la cheminée. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Aujourd'hui, dans les greniers, on n'a rien à part des souris. Donc, ça ne nous parle pas de grenier réellement. Là encore, ça nous parle de compte bancaire et de finances. Et dans toutes tes entreprises, bien sûr, là, c'est notre travail, entre autres, et tout ce qu'on fait dans la vie présente. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, bien sûr, ça nous parle de l'importance d'être au bon endroit et au bon moment. Si, par exemple, j'étais resté en France alors que Dieu m'appelait à vivre au Québec, je ne vivrais pas les bénédictions que j'ai aujourd'hui parce que je serais dans le mauvais endroit. Et je pourrais prier comme beaucoup de gens, « Seigneur, pourquoi ?» Et « Seigneur, pourquoi ?» Et « Seigneur, pourquoi ?» Jusqu'à réaliser finalement, à me repentir, à me dire « Mais non, Seigneur, tu m'avais parlé. » Donc, l'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Comment ils verront? On est en train de parler de quoi ici? De prospérité financière. Avant ce verset et après ce verset. Alors bien sûr, dans les évangiles, la Bible dit qu'on nous reconnaîtra avec l'amour qu'on a les uns pour les autres. Bien sûr, c'est l'amour qui passe au-dessus de tout ça. Mais il est dit, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Qu'est-ce qui fait peur aux gens aujourd'hui dans ce monde? C'est le pouvoir financier. Ça fait peur aux gens. Bon, on dirait aussi la maladie, mais le pouvoir financier fait peur aux gens parce que les finances ont un pouvoir incroyable qu'on ne réalise pas. Si aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui venait dans cette région ou même dans cette ville, là où on est en ce moment, qui est milliardaire. Cette personne a un pouvoir. Si cette personne commence à inviter les responsables de cette ville dans son énorme château, qu'il offre un château à l'un, un château à l'autre, quelques millions de dollars à l'un, quelques millions de dollars à l'autre, et qu'à un moment, ils disent « Mais c'est pourquoi il y a des églises dans ta ville là, tu devrais pas mettre d'église dans ta ville, c'est des chrétiens, c'est n'importe quoi et tout ça. » Qu'est-ce que vous pensez que la personne fera? L'argent a un pouvoir qu'on n'imagine pas. Et les lois qui sont votées, d'ailleurs on a vu ici au Québec, mais aussi dans d'autres pays du monde, il y a des lois qui sont votées contre les chrétiens ou contre des principes bibliques qui ne sont pas nés par hasard. Elles ont commencé parce que quelqu'un avait de l'argent ou parce que des gens ont mis de l'argent ensemble pour amener des idées. Un peu d'argent, un peu d'idées. Un peu d'argent, un peu d'idées. Il y a d'ailleurs des peuples comme ça qu'on a amenés comme sous une domination parce que justement, il y avait un petit peu d'argent et il y avait un petit peu d'idées. Donc l'argent a un pouvoir, on va le voir. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. L'argent, ça fait peur. Ça peut faire peur en tout cas. Nous, ça ne doit pas nous faire peur, bien sûr, mais ça fait peur aux gens. Quand on leur dit « Demain, je vais te licencier, tu n'as plus de travail », les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Qu'est-ce que je vais faire sans argent ?» Donc l'argent ou le manque d'argent, ça fait peur aux gens. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux. Je ne me suis pas saisi encore de la promesse du fruit des entrailles. Et le fruit de ton sol dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel s'ouvrira son bon trésor. Alors, quel trésor le Seigneur a au ciel? Oh, tu sais, Jérémie, c'est un trésor spirituel. C'est la paix, c'est la joie, oui. Oui, bien sûr, ça fait partie de notre héritage. Mais on va lire de quoi il nous parle ici, de quel trésor. Il t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. La conclusion est quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. C'est puissant. La Bible nous montre que Dieu a un trésor dans le ciel qu'il peut nous envoyer. C'est l'image de la pluie ici, c'est l'image de la bénédiction aussi dans notre travail. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une prospérité financière qui nous amène à prêter aux gens et à ne pas emprunter. Moi, personnellement, je déteste emprunter. J'ai fait deux prêts dans ma vie. Une au début de mon mariage pour acheter une voiture qu'on a payée dans le temps prévu. Et le deuxième pour payer une maison. Mais la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas le prêt. On le lit ici, noir sur blanc. Que la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas d'emprunter. Mais dans notre croissance financière, on devrait arriver au bout d'un moment, justement, à pouvoir vivre ce que nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire à ne plus emprunter, mais à prêter. Et quand vous allez dans une banque, là, c'est la même chose, et que vous arrivez avec quelques centaines de millions de dollars, selon la banque, on va vous faire un grand sourire en arrivant. Et il y a des villes ici ou ailleurs d'ailleurs, des petites villes avec, vous savez, une petite banque où c'est vraiment pas très très beau à l'intérieur. Et quand la personne arrive et qu'elle installe une grande entreprise, la personne va recevoir des courbettes et des messieurs et des madames. Parce que les gens sont intéressés à l'argent, donc ils craignent ces personnes-là. Dieu nous dit qu'il a un trésor dans le ciel et c'est un trésor de bénédiction financière, de prospérité qui va nous amener à prêter aux gens et à ne pas emprunter. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Là encore, ça vient détruire les pensées. Oui, mais tu sais, parfois, etc., etc. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, ça répète encore ici parce que c'est vraiment lié, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour te rallier à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. Donc, on connaît ce passage. On pourrait le commenter encore de différentes façons. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu a même un trésor au ciel et Dieu veut bénir ses enfants. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure et on en reparlera, la pauvreté n'est pas une bénédiction. Personne ne dit « Ah, moi, je suis tellement béni d'amener mes enfants à l'école en hiver avec des habits d'été. Je suis tellement béni que mes enfants ont juste du riz à manger à la cantine et que tous leurs amis se moquent d'eux. Je suis tellement béni que mes enfants ne peuvent pas faire des activités parce que vraiment, ça me bénit trop. Ça montre vraiment que ben nous, on est humbles et tout ça. » Non, aucun parent dirait ça. Donc, comment on peut imaginer et penser que Dieu nous veut dans la pauvreté ou dans le manque? Ça, c'est une pensée religieuse et qu'il faut vraiment enlever de nous si c'est en nous. Alors ça, c'est dans l'Ancien Testament. On voit, le manque n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, on va parler d'alliance transitoire ou encore dans les évangiles. Dans Matthieu au chapitre 6, est-ce que dans les évangiles, c'est encore la volonté de Dieu pour nous de prospérer ou d'être pourvu? Dans Matthieu 6, 22 et 23, de 22 à 33, nous on va lire à partir du verset 25, Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, donc c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, donc observez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, on parlera des inquiétudes aussi dans cette série, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez, regardez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Bien sûr, Salomon, c'est l'homme qui a été le plus riche de la terre. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc là encore, une fois de plus, on voit très clairement, Jésus nous dit que, à plus forte raison qu'il revêt des choses qui passent comme ça, à plus forte raison, il va nous vêtir. C'est quoi le vêtement ici? C'est être pourvu dans nos besoins, puisqu'il a parlé de manger, il a parlé de notre vie, de la nourriture, du corps, le vêtement, etc. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Donc Jésus dit que tout cela, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, le logement, tout en fait ce dont on a besoin dans cette vie, dans le naturel, tout ça, Dieu va nous le donner. Ce n'est pas le diable qui va nous le donner, c'est Dieu qui va nous donner tout ce dont nous avons besoin parce qu'il est bon et parce qu'il connaît nos besoins. Mais il va nous donner ces choses-là à une condition, c'est qu'on cherche son royaume, premièrement, et sa justice. Donc c'est une recherche du cœur pour le royaume de Dieu. Et on en reparlera plus tard. Dans la Nouvelle Alliance, on peut aller dans 2 Corinthiens au chapitre 9. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 9, on voit la définition de la prospérité. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. C'est là qu'on voit vraiment la définition de la prospérité dans la Nouvelle Alliance. Il est écrit « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » C'est la définition de la prospérité dans la parole de Dieu. Ce qui est intéressant quand la Bible parle d'argent ou de la volonté de Dieu pour nos finances, c'est qu'elle utilise toujours des termes extrêmement forts. On peut lire le passage comme on vient de le lire, ou on peut le lire aussi comme ça. « Et Dieu a le pouvoir, donc la puissance, l'autorité, de vous combler. » Combler, c'est être dans la surabondance. Combler, c'est avoir plus que suffisant. Combler, c'est avoir plus qu'assez. Combler, c'est avoir plus que le nécessaire. Combler, c'est quand tu as mangé et tu as tellement mangé que tu as juste envie que ça sorte. Ça, c'est quand tu es comblé. Ou ça veut dire rassasié. C'est rassasié, quand tu es rassasié. Il y a des enfants, ils vont faire des manèges parfois. Ils font un manège, ils sont contents, ils font le deuxième manège, ils font le troisième. Et au bout d'un moment, ils sont rassasiés, ils n'en peuvent plus. Ils ont juste envie de s'asseoir un moment et de s'arrêter. Ou alors quand ils mangent trop de pop-corn. Au bon moment, ils sont rassasiés, ils n'en peuvent plus. C'est ce qu'il est dit ici. Dieu a le pouvoir de vous combler. De vous combler de toutes sortes. Donc, Dieu ne dit pas d'une seule sorte. Dieu dit de toutes. Ça veut dire tout ce qui est possible, toutes les sortes possibles. Toutes sortes de grâces. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un des Pringles. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, j'aime bien ça. Et ils sortent tout le temps des nouveaux Pringles, avec des nouvelles sortes. Et d'ailleurs, il y a des choses comme ça, comme les boissons, les breuvages ou les boissons gazeuses et tout ça. Bah, ils sortent toujours un petit nouveau produit. Je regardais même cette semaine chez moi un dentifrice, un shampoing, et ils avaient écrit « nouveau ». Et je me suis dit, mais comme s'ils étaient encore en train de découvrir de nouvelles choses pour mieux nous laver. Et les gens sont toujours aussi bien lavés. Non, en fait, ils ont toujours quelque chose de nouveau pour que... C'est-à-dire, c'est nouveau, je vais essayer. En fait, bon, c'est la société de consommation. C'est juste ça. Mais toujours des nouvelles sortes. Mais la Bible dit que Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de grâces. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Non, Seigneur, donne-moi juste une grâce dans ma vie, s'il te plaît. Je resterai humble. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il veut, il a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours, Dieu ne dit pas empruntant toujours, ou d'une manière éphémère, ayant pour un temps et le lendemain n'ayant plus. Non, Dieu dit que tu possèdes. Posséder, ce n'est pas la même chose qu'avoir. Tu peux avoir un peu d'argent aujourd'hui, mais demain, cet argent, il appartient à la banque. Par exemple, parce que tu as des dettes ou parce que tu devais de l'argent. Posséder de l'argent, c'est différent. Et Dieu dit ici que possédant toujours. Donc tu peux posséder une maison aujourd'hui, mais demain ne plus l'avoir. Si tu n'es pas sage, si tu ne fais pas un certain nombre de choses, si tu marches dans la convoitise et que tu t'achètes toutes sortes de choses et que tu ne fais pas attention, bah, cette maison-là, demain tu ne la posséderas plus. Dieu dit de posséder. Et il dit possédant toujours. Donc, Dieu dit qu'il a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de grâces pour que, possédant toujours, donc la volonté de Dieu, c'est pour nous, c'est quoi ? Qu'on possède juste un jour, juste le jour de notre mariage, quand là tout est beau, tout est magnifique, Nous, on s'est mariés dans un château. Je me souviens, on est arrivé avec une voiture qui était une voiture poubelle. Et on voyait ce grand château-là. Et on est entré dans ce château et c'était l'endroit le plus extraordinaire pour les mariages de toute notre région. Et on n'avait pas l'argent. Et on va voir que la prospérité, ce n'est pas forcément l'argent. La prospérité, c'est avoir ce dont on a besoin et encore plus pour toute œuvre bonne. Et Dieu, au travers d'un miracle, nous a amené à avoir notre mariage là. Et donc, dans un château, belle robe, bonne nourriture et tout ça, mais ça, c'est le jour du mariage. Et le lendemain, et le surlendemain, il y a les factures qui arrivent. Et là, tu arrives chez toi, et souvent, quand tu es jeune marié, bah, tu arrives dans une petite maison, ou un petit condo, un petit appartement, et ce n'est pas forcément super beau au début, à moins que tu aies des choses qu'on t'ait achetées. Mais il va falloir marcher là-dedans. La Bible dit « possédant toujours ». Donc, tous les jours de notre vie, c'est ça que ça veut dire. Toujours, ça veut dire tous les jours. C'est ce que Dieu veut. Possédant toujours, à tous égards. Donc, on voit comment Dieu veut insister, pour au cas où on n'a pas compris. Possédant toujours, à tous égards. Ça veut dire pas seulement, je vais posséder seulement dans tel type ou dans tel type de choses. Bon, dans la nourriture, ok, ou alors dans l'eau. Vous savez, il y a des pays dans le monde où l'eau est payante. Ok, moi j'aurais vraiment assez d'eau dans ma maison. Mais par contre, je manque de nourriture, je manque de vêtements, je manque d'essence dans ma voiture, je manque de ceci, cela. Non, la Bible dit que possédant toujours à tous égards. De quoi satisfaire à certains de vos besoins ? Non, là encore, il dit de quoi satisfaire. On est satisfait. On peut dire, oui, vraiment, je suis satisfait. Seigneur, tu m'as satisfait. Je suis satisfait. À tous vos besoins. Non, Seigneur, le Seigneur ne s'occupe pas de ce besoin. Non, ce n'est pas ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu ici. Je fais juste lire. Pour le moment, je fais juste lire ce que la Bible dit. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Tous vos besoins, ça veut dire tous vos besoins. Ça veut dire que Dieu veut répondre à tous mes besoins. C'est ce qu'il veut. Vous ayez encore. Waouh ! C'est-à-dire que non seulement il va satisfaire à mes besoins, mais il va tellement y satisfaire, puisqu'on a vu qu'il va tellement nous combler, qu'il y aura un surplus. Ça change de quand tu arrives au 18 du mois et qu'il te reste 12 jours à faire. Et tu te dis, aïe, 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 comment je vais faire ? C'est différent. Là, tu as de quoi satisfaire à tous tes besoins, mais tu as encore un peu, ou juste peut-être un petit peu, la Bible dit, en abondance. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. On est encore en abondance. Pour une petite bonne œuvre, bon, je vais donner, allez Seigneur, oui c'est vrai, j'ai en abondance, c'est 2 $, ou c'est 5 $. Je vais donner, Seigneur, ces 5 $ à un pauvre dans la rue. Non, la Bible dit, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ça veut dire que la volonté de Dieu pour nous, c'est bien sûr, on l'a vu, qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit pourvu dans tous nos besoins, et c'est qu'on soit tellement pourvu qu'on puisse donner pour toute œuvre bonne. Donc, arriver à un certain niveau financier dans notre vie, dans une certaine croissance financière, on devrait normalement être pourvu dans nos besoins, on devrait avoir de l'argent de côté, et on devrait pourvoir au royaume de Dieu et dans différentes œuvres. On devrait pouvoir, selon la parole de Dieu, et on verra les types de personnes à qui Dieu nous demande de donner. On verra qu'il y a les pauvres, on verra qu'il y a les veuves, donc les gens qui sont dans des difficultés familiales ou autres. On verra qu'il y a l'Église, on verra qu'il y a les ministères, on verra qu'il y a nos frères, qu'il y a nos sœurs. En tout cas, on va voir différentes personnes comme ça, et on devrait pouvoir aider ces gens-là. S'il n'y a personne pour les aider, mais qui va le faire ? Qui va aider ces gens-là ? Donc, selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi. Qu'est-ce que ça veut dire enrichi ? Ça veut dire riche. Vous serez de la sorte riche. À tous égards, en vue de toute espèce de libéralité, qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Donc ça, on en reparlera quand on parlera des soutiens, de la dîme, des offrandes, etc. On rappellera ça. Mais bon, là, on voit simplement la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament. Si on n'est pas encore convaincu, on peut aller dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 19. Où l'apôtre Paul, le même qui a dit « Je me plais dans les outrages, dans les privations, j'ai su me plaire dans la pauvreté, dans la disette et dans la richesse », il a dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Bon, c'est dans le contexte où on parle d'argent. C'est qu'une nouvelle fois, quand Dieu nous parle d'argent, il utilise trois mots simplement, excessifs. Il dit « Mon Dieu pourvoira », donc là encore, il y a toutes sortes de choses derrière ce verbe-là, « à tous vos besoins, selon sa richesse ». Et on a vu tout à l'heure, l'or et l'argent appartiennent à qui ? À lui, selon sa richesse. Avec gloire, en plus, et en plus de ça, en Jésus-Christ. Donc, là encore, c'est, on pourrait dire, une autre définition, c'est que mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En fait, on est obligé, si on est honnête avec nous et face à la parole de Dieu, de comprendre que Dieu veut pourvoir à nos besoins. On est obligé. Si on ne comprend pas ces choses-là, c'est que simplement on n'a pas un cœur pour la vérité ou qu'on est pris tellement dans nos têtes avec des mentalités de pauvreté, des mentalités religieuses, qu'on n'arrive pas à accepter que c'est la parole de Dieu à cause de ce message de pauvreté égale humilité. Mais pauvreté n'est pas égale à humilité, pas du tout. Parce qu'on a vu des pauvres et on a connu des pauvres qui étaient les gens les plus orgueilleux du monde, on pourrait dire. Et d'un autre côté, on a connu des riches qui aussi étaient très orgueilleux. Donc, ce n'est pas l'argent qu'on a dans nos mains qui forcément change le cœur d'une personne. Et d'ailleurs, on verra que l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas ne devrait jamais nous changer. Jamais. Parce que ça veut dire que l'argent a un pouvoir sur nous. L'argent qu'on a ou qu'on n'a pas ne devrait jamais nous changer. Ne devrait jamais changer notre confiance dans la parole de Dieu. Ne devrait jamais nous changer par rapport à ce que dit la parole. Ne devrait jamais changer notre confession, notre amour pour Dieu, notre amour pour les gens, et ça ne devrait pas non plus changer notre désir d'être une bénédiction pour le royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Dans Luc, au chapitre 12 et au verset 33, Luc 12, 33, Jésus a dit, parce que des gens diront ça, oui, mais tu sais, Jésus a dit, vendez tout ce que vous possédez. Dans Luc 12, 33, effectivement, Jésus dit « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a pas de voleurs qui approchent ni de mythes qui détruisent. » Alors là, les gens ont dit « Bah, vous voyez, je viens de lire, Jésus a dit « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. » Alors, mes frères et sœurs, nous allons faire vœu de pauvreté. Et que toute la religion que nous contrôlons aujourd'hui fasse vœu de pauvreté également, parce que Jésus l'a dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Et ce que ces gens n'ont pas lu, c'est qu'à un autre endroit, Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et je n'ai pas vu beaucoup de ces gens-là sans œil, ni manchot d'ailleurs. Et pourtant, je suis certain que plus d'une fois, ils ont regardé des choses qu'ils n'auraient pas dû regarder dans leur vie, ou qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et pourtant, ils ont toujours leurs deux bras. Donc, on voit simplement que, bien sûr, il y a un contexte et que Jésus va dire au verset 34 « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc, effectivement, comme le jeune homme riche qui s'est approché de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à ce jeune homme riche ? Il a dit « Tout ton argent, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et ensuite, suis-moi. » Est-ce que Jésus a dit ça à plus d'une personne dans les évangiles ? Non. Mais Jésus a dit ça à ce jeune homme parce qu'il savait que ce qui l'empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu et de le suivre, c'était cet amour qu'il avait pour l'argent. On voit dans le Nouveau Testament, On peut aller maintenant, oui, dans 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée au chapitre 6. Ce que Dieu va nous dire et ce qu'il va dire aux riches, aux gens riches dans l'Église, et Dieu ne se contredit pas dans sa parole, il faut simplement la comprendre et bien lire le contexte et pas sortir les versets pour les amener à ce qu'on veut, parce que d'ailleurs, ce genre de personnes qui ont fait vœu de pauvreté ou qui ont dit à leurs gens, entre guillemets, d'être pauvres, n'étaient pas pauvres. La plupart d'eux, ils vivaient très 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 bien, ils avaient tout ce qu'il fallait, logement payé, saucisson payé et vin payé à volonté. Et pas n'importe quel vin, d'ailleurs. 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 17, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel, qu'il est en train de former encore, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, on parlera de l'orgueil dans cette série, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Est-ce que l'apôtre Paul, l'apôtre qui a écrit plus de 2/3 du Nouveau Testament, était en train de dire ici, Timothée, mon fils spirituel, toi qui fais un travail pastoral et à qui j'appelle aussi à faire une œuvre d'évangéliste, s'il y a un riche dans ton église, dis-lui maintenant de tout vendre et de le donner en aumône. Pas du tout. Il dit simplement, c'est une histoire de cœur. Si tu places ton cœur, comme disait Jésus, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si tu places ton cœur dans des richesses incertaines, c'est-à-dire des richesses matérielles, tu as tout perdu. Dans ce cas-là, vends-le parce que tu vas te débarrasser de quelque chose de mauvais dans ta vie. Et il y a des gens, effectivement, l'argent pour eux, ça crée des choses mauvaises en eux parce que leur cœur change au travers de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas. Donc, il disait simplement qu'ils ne mettent pas leur espérance, c'est-à-dire leur confiance dans la vie, dans ces richesses-là, mais qu'ils la mettent en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? C'est que ces gens riches sont devenus riches à cause de qui? À cause de Dieu. Puisqu'il dit, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, ou dans une autre traduction, pour notre plus grand plaisir. L'apôtre Paul dit ici simplement que l'argent que ces riches avaient venait de Dieu. En fait, ce n'est pas une révélation, puisqu'on a lu dans Agé 2.8 que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes. Donc là, il apporte quelque chose d'intéressant. Il leur dit, ok, vous êtes riches financièrement, mais soyez riches aussi en œuvres bonnes. Faites quelque chose avec votre argent pour les autres. Qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Puisqu'on va voir que l'argent qu'on sème dans le royaume de Dieu, à chaque fois qu'on sème quelque chose, on est en train de s'enrichir dans notre compte céleste et dans ce que nous allons et dans ce dont nous allons profiter pour l'éternité. Aujourd'hui, un dollar que je donne parce que j'ai obéi au Seigneur, ça va me rapporter des milliards de dollars dans le ciel, éternellement. Voilà pourquoi c'est important de soutenir l'œuvre de Dieu aussi, quand on comprend ça. 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 9, il y a des gens qui ont dit, oui, mais tu sais, Jésus était pauvre. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. Là encore, il y a des gens qui ont dit, oui, mais tu sais, Jésus s'est fait pauvre, mais c'est spirituellement, et il veut qu'on soit enrichi, mais c'est spirituel. Mon frère, c'est simplement spirituel. Il veut pas qu'on soit prospère, et il veut pas qu'on soit enrichi. Bon, ça vient contrairement à les versets qu'on a vus et d'autres qu'on verra. Mais est-ce que Jésus était pauvre spirituellement? S'il avait été pauvre spirituellement, j'aimerais être pauvre comme lui. Parce que j'aimerais me retrouver devant un cercueil qu'on est en train de transporter, poser ma main dessus, sors maintenant. J'aimerais arriver dans un cimetière et voir sous la terre avec une pierre tombale et dire maintenant, au nom de Jésus, Lazare, sors. et voir la personne sortir. Si c'est ça, être pauvre spirituellement, alors je veux bien être de la partie. Par contre, c'est sûr qu'il s'est fait pauvre, entre guillemets. En fait, il a été fait pauvreté. De la même façon qu'on sait que le péché est venu sur lui, on sait que la malédiction est venue sur lui, maudit et quiconque est pendu au bois, on sait que la maladie est venue sur lui, mais de la même façon, la pauvreté est venue sur lui. On sait que la mort est venue sur lui, grâce à lui, on a la vie, grâce à lui, on a la santé, et on sait effectivement que grâce à lui, eh bien, on a la bénédiction, et Dieu nous appelle à être enrichis, pour ne pas dire, pour ne pas choquer certains, à s'enrichir. Et on verra que Jésus a dit « Soyez riches ». Vous avez déjà lu ce passage ? On le lira ensemble. Jésus a dit « Soyez riches ». Mais il a dit « Soyez riches pour Dieu ». Mais il dit « Soyez riches, mais pour Dieu ». Donc, Jésus sur la terre était soutenu par des femmes riches, on le sait. Jésus sur la terre n'était pas dans le manque. Il avait besoin de payer un impôt. « Allez, mon ami, tu vas pêcher un poisson et dans sa bouche, tu trouveras un stataire ». Il n'y avait pas de problème. Donc on sait que, mais par rapport à la richesse du ciel, il s'est appauvri. Parce qu'il avait besoin des ressources naturelles, il avait besoin de femmes qui soutenaient son ministère, des gens qui soutenaient son ministère pour pourvoir aux besoins des autres. Mais il est vrai que même, par exemple, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, il a eu besoin de pains et de poissons qui venaient d'un enfant pour produire un miracle. On sait bien entendu qu'il pouvait tout faire, il aurait pu prendre de la poussière et faire un miracle comme il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais d'une certaine façon quand même, il s'est appauvri par rapport à la gloire qu'il avait au ciel, et ça la Bible nous le dit. Mais ce qu'il faut comprendre ici simplement, c'est qu'il a été fait pauvreté. Et on aurait pu parler, et beaucoup de gens qui parlent des finances, ils introduisent avec ça, en parlant qu'on a été racheté de la malédiction de la loi, donc les malédictions de Deutéronome 28 entre autres, et que ça comprend, comme on l'a vu, la mort, la pauvreté, la maladie et tout ça. Bon, je n'ai pas voulu passer trop de temps là-dessus, mais il y a un principe ici, c'est clair, que Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et cet enrichissement, ça concerne tous les domaines dans notre vie. Donc ça, c'est simplement pour dresser la volonté de Dieu concernant les finances. Ça m'a pris plus de temps que j'aurais pensé. Maintenant, on va voir que l'argent n'est pas sale, au contraire, il appartient à Dieu. Donc on a vu dans Agé 2.8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel, des armées. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez dire si je vous dis que Dieu aime l'or ? Que Dieu aime l'argent ? Attention, Jérémy, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Dans Exode chapitre 25, entre autres, on voit que Dieu aime l'or. Lorsqu'il va donner des instructions pour la construction du tabernacle, il va dire dans Exode 25:2, « Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, donc des hommes au cœur généreux, c'est ça que nous dit le verset précédent, de l'or, de l'argent, du bronze, et après aussi toutes sortes de choses de valeur. » Un peu plus loin, dans la description de l'arche, de la table et du chandelier, au verset 11, donc Exode 25:11, tu la couvriras, donc cette arche, d'or pur à l'intérieur et en plus à l'extérieur. Tu feras une bordure d'or tout autour, comme si ce n'était pas assez. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or et tu les mettras à ses quatre coins. On peut voir au verset 13, tu feras des barres en bois d'acacia, ce n'est pas n'importe quel bois, hein. Et tu les couvriras d'or. Un peu plus loin, on peut voir encore verset 18, tu feras deux chérubins d'or aux deux extrémités du propitiatoire, tu les feras d'or battu. Et on pourrait aller encore plus loin et on verra qu'en fait, que l'or a été un des éléments qui a été utilisé énormément dans la construction de l'arche, du tabernacle, parce que Dieu, apparemment, il a l'air d'aimer l'or. Dans Apocalypse, au chapitre 21, on voit que Dieu n'a pas changé au travers des années. Et apparemment, il aime toujours l'or. Il y a des gens qui se lassent des bijoux. Moi, personnellement, c'est vraiment pas mon truc. Mais il y en a qui se lassent pas des bijoux et de l'or. et parfois les femmes, c'est sûr. Apocalypse 21, au verset 15. « Celui qui me parlait, un ange, hein, avait pour mesure un roseau d'or. » Je pense qu'il aimerait ça, Stéphane. Dans son travail, un petit roseau d'or. Attends, je vais prendre mon tape. Ah, il me manque un peu d'argent, attends. Un centimètre. Un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Au verset 18, « La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. » Toute la ville. Hein. Toute la ville. Là, il faut vraiment aimer beaucoup l'or. Hein. Imaginez si tu aimes le rose et que tu vas, ou quelqu'un aime le rose, tu rentres chez lui et tout est vraiment rose. Les murs sont roses, les plafonds sont roses, il est habillé tout en rose, il mange que des trucs roses. Tu te dirais, waouh, il aime vraiment le rose. Et apparemment, Dieu aime vraiment ça. Au verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Et là, on va voir qu'il y a différentes pierres précieuses qui étaient là. Et au verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur. Donc non seulement la ville, mais aussi la place était d'or pur. Donc, Dieu n'a pas de problème avec l'or. Dieu aime l'or parce qu'en fait, dans le cœur de Dieu, il n'a pas de problème. En fait, il ne manque de rien. La Bible dit même... si j'avais faim, je ne t'en parlerais pas. C'est Dieu qui dit ça. C'est vraiment humoristique. Hein. Dieu fait de l'humour. Mais même s'il avait faim, effectivement, on ne le saurait pas parce que Dieu n'aura jamais faim. Dieu ne sera jamais dans le manque. Dieu est extrêmement riche. Et l'or, en fait, l'argent, d'une manière générale, cet argent-là n'est pas un problème. Par contre, cet argent-là, dans de mauvaises mains, devient un problème. Parce que si cet argent... sert à financer des choses qui demain vont amener devant ton fils ou ta fille des choses dans les médias qu'il va regarder sur Internet, parce qu'il y a des gens qui ont payé, qui ont été salariés pour amener toutes sortes de choses dégoûtantes sur Internet, ou alors il va se retrouver devant la télévision que tu le laisses allumer n'importe comment chez toi et que là, pof, il va tomber sur quelque chose qui va amener des pensées en lui et il va commencer à faire la même chose qu'il voit à la télé, ou alors au cinéma, ou alors dans des publicités, ou alors voir tous ses amis en ayant toujours la convoitise du dernier truc qui vient de sortir, là, tu vas dire, mais finalement, oui, l'argent a un pouvoir. Et quand il est dans de mauvaises mains, ça crée des problèmes. Par contre, quand il est dans de bonnes mains, il permet de faire le bien. Tu peux donner 5 dollars, ou 10 dollars, ou 50 dollars, ou 1000 dollars, ou 10 millions de dollars, si tu veux, à quelqu'un. Parce que tu fais le bien, parce que c'est dans une bonne main. Donc l'argent, ce n'est pas du tout un problème. C'est le cœur qui est derrière l'argent. Le jeune homme riche, son argent n'était pas un problème. Ce qui était son problème, c'était le cœur qu'il avait par rapport à l'argent. Et c'était la confiance qu'il mettait dans son argent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira que, non, que les riches ne mettent pas leur confiance. Parce qu'il y a des gens, ils ont confiance dans l'argent. Comme il y a des gens, ils ont confiance dans leur directeur. Jésus disait « N'appelez personne directeur ». Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas respecter par exemple son directeur et l'appeler directeur? Non. Là encore, c'est un principe qu'il y a derrière, qui veut dire « Mais ne crois pas que ton directeur, ton vrai directeur, c'est lui. » Parce que c'est un homme. Demain, il peut être éjecté ou demain, il peut te licencier. Et quand tu seras licencié, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, je suis licencié, mais est-ce que Dieu est toujours sur le trône? Dieu est toujours sur le trône. Si Dieu est ton directeur, mais peu importe si quelqu'un te licencie, il va te placer ailleurs. Par contre, si tu as mis ta confiance dans des richesses incertaines, et si on met notre confiance en l'homme, effectivement, quand l'homme nous rejette, là, on peut pleurer. Parce qu'on a mis notre confiance dans des richesses qui sont incertaines, qui sont bancales. Par contre, quand on met notre confiance en celui qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, on peut sortir de notre bureau où on vient de se faire éjecter et dire, Seigneur, gloire à toi. Je sais que je suis pourvu dans tous mes besoins et je te remercie pour mon prochain travail qui vient, que tu as déjà préparé pour moi. Donc, c'est une perspective totalement différente de confiance en Dieu et de foi. Donc, non, l'argent n'est pas sale. Dans Psaume au chapitre 24, c'est pour ça que j'avais demandé à Pasteur Joël de me donner cette semaine, mais je vois qu'en 4, ça va être difficile. Psaume 24. Il voulait bien. Psaume 24, verset 1. à l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui qui l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc, à qui est la terre et ce qui la remplit, à qui est le monde et même les gens qui habitent dans ce monde, à Dieu. Dans Romains 11, au verset 33, c'est important de voir plusieurs passages parce que ça permet d'établir des vérités. Romains 11, verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Entre parenthèses, il y a un autre passage qui dit que nous avons la pensée du Christ. « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Tout est de lui, par lui et pour lui. » Donc on voit que tout appartient à Dieu. Et ça nous amènera dans une pensée que je partagerai avec vous par rapport à la valeur de l'argent à nos yeux. Et à réaliser, à comprendre dans notre vie quel est notre rôle par rapport à l'argent. Et on va réaliser qu'en fait, on a un rôle d'intendance. La Bible dit « nous sommes des administrateurs ». Et les gens dans ce monde, pour eux, l'argent leur appartient. Et dans l'Église, la majorité des gens, et moi-même je suis en train de changer ma pensée par rapport à ça, parce que j'ai découvert quelque chose dans la parole de Dieu, c'est que l'argent ne m'appartient pas. Et on peut le dire, on peut le savoir entre guillemets, mais c'est une autre chose que de le vivre réellement dans la vie de tous les jours. L'argent, on verra que ça ne nous appartient pas. L'argent nous est prêté. Sur cette terre, par qui ? Par Dieu. Parce qu'on a vu, l'or et l'argent appartiennent à qui ? À Dieu. Quand l'or est dans ta main ou quand l'or est dans la main de quelqu'un sur cette terre, est-ce qu'on peut réellement dire, dans le sens premier et le sens second, que l'or lui appartient ? Non. Il appartient à Dieu. Il appartient au Seigneur. Donc ça, on en parlera de l'intendance que Dieu nous donne. Donc ça, on a vu, l'argent n'est pas sale. Au contraire, il appartient à Dieu. Maintenant, on parle aussi, dans une autre fondation, de la limitation des biens matériels. On peut aller dans Ecclésiaste au chapitre 1, au verset 2. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. La limitation des biens matériels. Dans Ecclésiaste au chapitre 1 au verset 2, l'Ecclésiaste dit, comme il aime dire, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. » Donc ça, c'est une pensée d'un homme qui regarde les choses finalement, et qu'une génération s'en va, une génération vient, et finalement, tout est vanité. Si tout est vanité, effectivement, on réalise que l'argent est complètement éphémère dans ce monde. Les billets de banque aujourd'hui ont une certaine valeur, mais si demain il y a un krach boursier, ce billet de 5 dollars, demain, vaudra 0,0005 peut-être dollars. Parce qu'il n'a aucune valeur, cet argent. Il n'a que la valeur qu'on lui donne au moment où je vous parle. Et si vous allez dans des sites internet de devises ou boursiers, vous allez voir que la valeur de l'argent, à chaque minute, elle évolue. Donc, elle change. Donc, la valeur qu'on donne à l'argent, c'est la valeur que l'ensemble des gens dans une même région ou un même pays vont lui donner. La Bible dit ici que finalement tout est vanité. Et que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Et ça nous montre une chose, c'est qu'effectivement l'argent, les finances, tout ça, c'est éphémère. Et si c'est éphémère, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand. Parce qu'on n'est pas né pour juste avoir de l'argent ou pour dépenser de l'argent. Et on n'est même pas né seulement pour donner de l'argent aux gens. On est né, la Bible dit, pour accomplir les projets de Dieu. On peut lire dans Jérémie 29, 11, « Moi, je connais les projets et les plans que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, on sait très clairement, Jésus dit par exemple, « Moi, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Ça, ce n'est pas éphémère. Un fruit qui demeure, ça n'est pas éphémère parce que ça a des répercussions sur l'éternité. Mais si on entreprend un enseignement sur les finances avec un mauvais cœur, en se disant, comme beaucoup de chrétiens, après avoir entendu des enseignements sur l'argent, en se disant « moi, je veux devenir riche », on va simplement entrer dans un système mondain de convoitise qui va n'amener que des choses éphémères. Et ça ne va rien produire pour le royaume de Dieu. Donc, on parle finance, mais une des fondations, c'est que les finances et même les biens matériels sont complètement limités et sont complètement éphémères. Et en fait, au bout d'un moment, peuvent effectivement devenir vraiment une vanité. On verra un proverbe, par exemple, qui dit que mieux vaut dans une maison un morceau de pain sec, là où règne la paix ou l'amour, plutôt qu'une maison où il y a la colère, où il y a beaucoup de viande. Donc, avoir de l'argent n'est pas forcément une source de joie. Ce qui est une source de joie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit « Moi, je me plais dans les outrages, dans les privations. Il a appris à être heureux dans la disette, dans la pauvreté et dans la richesse. » Il a appris ces choses-là. Parce que la joie ne vient pas de ce qu'on possède. Sinon, quand demain, peut-être s'il arrivait quelque chose, ou hier, si tu as vécu quelque chose, si ce manque t'amène dans la tristesse, mais la Bible montre que tu es dans ce cas-là un homme instable, inconstant dans toutes ses voies. Si ce qui t'apporte la joie, c'est la saison de l'été, eh bien les trois autres saisons, tu seras dans la dépression. Et comme beaucoup de gens disent ici, je déteste l'hiver. Moi, j'ai refusé de dire ça quand je suis arrivé. J'ai dit non, j'aime l'hiver. Et j'avoue, cet hiver, ça a été un peu plus difficile. J'ai dit une parole à un moment et Annabelle m'a repris, elle m'a dit non, tu aimes l'hiver. J'ai dit oui, gloire à Dieu, j'aime l'hiver. C'est pas les choses extérieures qui doivent nous changer. C'est l'intérieur qui change l'extérieur. Et effectivement, par rapport aux saisons, c'est des choses que notre intérieur ne pourra pas changer. On ne pourra pas dire, Seigneur, aujourd'hui, comme un prédicateur me disait cette semaine, ça m'a fait rire, on a prié pour qu'il fasse beau en venant au Québec. Et je lui ai dit, ah, mais c'est pas très gentil parce que le monsieur de la montagne de Bromont avait prié pour qu'il neige, pour qu'il y ait un peu plus d'argent, il se fasse un peu plus d'argent. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas changer par la prière. Et les prières, Seigneur, fait qu'il fasse beau. Bah, y a peut-être quelqu'un dans ta même ville qui a un paysan, un fermier, il a besoin qu'il pleuve. Donc à qui Dieu va répondre aujourd'hui? Allez, c'est toi. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, des choses naturelles et physiques, on ne peut pas les changer. Par contre, on peut changer nos réactions par rapport à ces choses-là. Si tu es employé dans une entreprise, par exemple, il y a une entreprise à Bromont qui a été vendue, il y avait des centaines d'employés là-dedans, ils ont quasiment tous été licenciés, tu seras licencié peut-être avec tous ces gens-là. Si l'entreprise ferme et qu'il y a 1000 personnes là-dedans, il est possible que si tu en es et qu'ils licencient les 1000, bah, tu vas être dans le lot. Par contre, ta réaction sera différente, totalement différente. Il y a des choses, on passera à travers. Il y a des choses qui viendront sur nous. La Bible dit que la pluie tombe sur le juste et sur le méchant. Sur le juste et sur le méchant. On n'est pas, même s'il y a des gens qui ont vécu ça, entre autres, il y a Violette Ruland, vous vous souvenez de... Elle a un témoignage extraordinaire d'un jour où elle a annoncé l'évangile dans la rue et il tombait des trombes d'eau, des cordes d'eau, et au-dessus d'elle et de la personne à qui elle annonçait l'évangile, l'eau ne tombait pas. Et tout autour d'elle, l'eau tombait. Et j'ai entendu un autre témoignage comme ça aussi récemment. Donc il y a des choses comme ça qui sont possibles. On sait que le miraculeux est tout à fait possible. Quand Dieu veut faire quelque chose de spécial, il peut le faire. Je ne sais plus ce que je disais, mais du coup on peut aller au passage suivant. Dans Luc au chapitre 12. Oui, merci. C'est vrai ce que tu dis. Luc chapitre 12, au verset 16. Luc 12, 16, il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour ramasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Donc là, on voit un homme qui finalement est égoïste et qui, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans le monde, et malheureusement parfois comme beaucoup de chrétiens, arrivé à la retraite, ils se disent, bon, maintenant, on va profiter de l'argent qu'on a mis de côté et on va tout faire pour nous. On a travaillé toute la vie pour quelqu'un. Maintenant, on va s'occuper de nous et de nous et de nous. Et leur pensée, c'est tous les matins, qu'est-ce que je peux faire pour me réjouir, pour m'apporter un peu de joie ? Demain, j'irai là, demain, j'irai là, demain, j'irai là. Bref, c'était sa mentalité. Et Dieu lui dit, mais finalement, tout ce que tu as préparé, ce sera pour qui ? Et la Bible dit, il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le problème ici, c'est d'accumuler des trésors pour soi-même. Et ce qui n'est pas le problème ici, c'est d'être riche pour Dieu. Donc là, on voit encore la vanité des finances, finalement, si ces finances ne servent pas à la gloire de Dieu. Proverbes chapitre 17, verset 1. Ça me rappelle l'IBEM, ça fait du bien. Le verset dont j'ai parlé tout à l'heure, Proverbe 17, 1, c'est un verset qui m'a béni. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité, ou encore avec la paix dans notre version, qu'une maison pleine de viande avec la discorde. Donc, bon, j'en ai déjà tout parlé tout à l'heure, mais là encore, ça nous montre une fois de plus la vanité de l'argent. Et il y a des gens, on en parlera dans la gestion des finances et dans la prospérité, qu'ils veulent tellement prospérer financièrement, ils veulent tellement s'enrichir, qu'ils partent le matin à 5h, ils reviennent le soir à 23h. Et qu'est-ce que ça crée ? Bah, bien sûr, ça va créer des problèmes dans le couple, ça va créer des problèmes dans la famille, et ça va créer des problèmes dans l'éducation des enfants. Parce qu'un père ou une mère qui est absente, ça crée au bout d'un certain temps des problèmes. Et s'il est vrai qu'il y a un temps dans les saisons, on verra, il y a un temps parfois, oui, pour travailler plus, on devrait trouver un équilibre dans nos vies. Parce que la Bible nous dit que Dieu donne même à celui qui dort pendant notre sommeil. Dieu peut nous bénir, même pendant qu'on dort. Donc il y a une réalité qu'il faut vraiment comprendre. Donc je pense que je vais arrêtez là pour aujourd'hui. La fois prochaine, on va parler de la crainte de Dieu. C'est l'ingrédient indispensable pour prospérer. Et aussi de notre vision de l'argent, avoir une juste vision de l'argent et de la prospérité. Et la valeur de l'argent à nos yeux. On va voir que l'argent n'est pas la réponse à tout. Donc voilà pour les quelques fondations aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.